Un journal présenté ce soir par Anne Fouquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Ils sont assis à la même table à Genève, des représentants du gouvernement de Bachar el-Assad et des opposants au régime de Damas, 8 ans après le début de la guerre civile sous l'égide de l'ONU. Première réunion pour réviser la constitution de la Syrie. Que faut-il en attendre ? Compte rendu de Jérémy Lanche au début de ce journal. La Syrie, où de violents affrontements sont en cours dans le nord entre les armées turques et celles de Bachar el-Assad. C'est le mariage du jour dans l'industrie automobile, mariage très attendu en Italie. Mais quelles sont les attentes de Fiat Chrysler à l'égard du français PSA ? Nous irons à Rome avec Olivier Tosseri. Tandis qu'en France, chez Peugeot, les syndicats saluent l'initiative tout en restant prudents. Emmanuel Macron à Rouen ce soir, après un mois après l'incendie. Visite surprise sur le site de l'usine chimique Lubrizol. Le chef de l'État empêtré dans le débat sur le voile et qui s'affiche en une du magazine ultra-conservateur Valeurs Actuelles. 12 pages que Stéphane Robert va nous résumer. Enfin, c'était une audition attendue par les députés de la commission d'enquête qui cherche à faire la lumière sur l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris début octobre. Selon le préfet Didier Lallement, 7 policiers ont été désarmés depuis ce drame au sein de l'institution. Mais avant de développer les titres, au Chili, c'est la conséquence de la crise sociale qui touche le pays depuis 11 jours. Le président Sébastien Piñera renonce à organiser 2 événements qui devaient se tenir ces 2 prochains mois. Le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique en novembre, mais surtout la COP25, la conférence sur le climat qui devait se tenir dans la capitale Santiago. Santiago, où vous avez suivi l'intervention du chef de l'État Sébastien Piñera, Justine Fontaine.
Avec une grande douleur, dit-il, Sébastien Piñera a pris acte du fait que les conditions ne sont pas réunies pour assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité pendant la COP25, la conférence de l'ONU pour le climat, qui devait se tenir début décembre à Santiago. Est aussi annulé le sommet de l'Alliance commerciale Asie-Pacifique, l'APEC, où devaient aussi se rendre mi-novembre de nombreux dirigeants, notamment le président chinois Xi Jinping. Sébastien Piñera.
Sentimos.
Nous nous excusons et nous regrettons profondément les problèmes et inconvénients que cette décision va signifier, aussi bien pour l'APEC que pour la COP. Mais en tant que président de tous les Chiliens, je dois en toutes circonstances donner la priorité aux problèmes et intérêts des Chiliens, à leurs besoins, leurs aspirations et leurs espoirs.
Alors que des manifestants étaient une nouvelle fois en train de commencer à se réunir dans les rues de la capitale, Santiago, le président a répété qu'il travaillait avec le Parlement sur des mesures sociales pour les Chiliens. Plusieurs parlementaires ont réagi à l'annulation de ces 2 sommets internationaux. Un député de droite souligne que le Chili doit résoudre cette crise sociale avant de pouvoir recevoir ce type d'événement. Des députés de l'opposition de gauche, eux, appellent à ne pas oublier les demandes environnementales des Chiliens, notamment hors de la capitale.
Et première réaction internationale ce soir, elle vient de Washington. Le président Donald Trump dit espérer signer un accord dans les mêmes délais avec la Chine en dépit de l'annulation de ce sommet de l'APEC. Dans le nord de la Syrie, après le départ des Kurdes, les troupes de Bachar el-Assad se retrouvent à proximité des soldats turcs. Ankara a en effet instauré une zone de sécurité en territoire syrien le long de sa frontière. Une zone qui génère toujours beaucoup de tensions en dépit de la trêve négociée il y a une dizaine de jours. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Cet après-midi, de violents affrontements ont éclaté entre l'armée syrienne, celle de Bachar el-Assad, et les forces turques.
Oui, alors pour comprendre pourquoi ces incidents violents, alors que l'on croyait le dossier en voie d'apaisement, il faut revenir à l'accord signé le 22 octobre dernier entre les présidents russes et turcs. Il est dit que les forces kurdes du YPG, basées en Syrie, doivent se retirer dans une zone de 30 km de profondeur sur 120 km de long. En revanche, il n'est pas dit que l'armée turque peut se croire chez elle sur tout ce territoire et surtout qu'elle a le droit de dépasser cette ligne. Or, des incidents relevés dans la ville de Tal Tamer, qui se trouve à plus de 40 km de la frontière, ont été relevés, c'est-à-dire 10 km de plus que ce qui a été négocié il y a une semaine. Dans l'accord signé, il est bien spécifié par Vladimir Poutine en personne que l'intégrité territoriale de la Syrie était une ligne rouge à ne pas franchir. Une intégrité que la Turquie ne semble pas respecter totalement et qui explique en partie la réaction syrienne de ne pas se laisser faire. Cela dit, ce soir, les autorités turques semblent vouloir faire retomber la pression. Le ministre de la Défense, dans un communiqué, explique que la Turquie va cesser son offensive car elle est certaine maintenant que les Kurdes ont quitté la zone, une information validée par les États-Unis. Le calme devrait donc revenir temporairement car le conflit, lui, est loin d'être terminé.
Précision signée Nathanaël Charbonnier. Le gouvernement de Bachar al-Assad sera-t-il prêt à faire des concessions politiques pour reconstruire la Syrie? C'est tout l'enjeu alors que se tient à Genève la première réunion d'un comité constitutionnel syrien. Des représentants du régime de Damas, de l'opposition et de la société civile sont réunis à l'initiative des Nations Unies. Une réunion suivie par notre correspondant en Suisse, Jérémy Lanche.
Dear members of the Constitutional Committee.
Sous le crépitement des flashs, les délégations syriennes prennent place dans la salle du Conseil de l'ONU. Les deux coprésidents du comité constitutionnel, issus pour l'un du gouvernement et l'autre de l'opposition, ne se serreront pas la main. Qu'importe, le symbole d'unité est là pour l'envoyé spécial pour la Syrie, le Norvégien Geir Pedersen.
Je sais que ce n'est pas facile pour vous d'être ici, ensemble, dans la même salle. Je sais qu'il existe beaucoup de ressentiments entre vous et je le respecte, comme il existe du ressentiment entre tous les Syriens après 9 années d'un conflit violent. Mais le simple fait que vous soyez ici, aujourd'hui, face à face, prêt à négocier, est un formidable signe d'espoir pour tous les Syriens à travers le monde.
Le comité constitutionnel rassemble 150 personnes, un tiers nommé par Damas, un tiers par l'opposition et un tiers par l'ONU au titre de la société civile. Aucun délai n'a été fixé pour la fin de ces travaux. Officiellement, le processus est 100% syrien, mais la réalité, c'est que la Russie et l'Iran, parrains du régime d'Assad, et la Turquie, qui soutient l'opposition, pèsent de tout leur poids. Leurs 3 ministres des Affaires étrangères étaient d'ailleurs à Genève à quelques heures du lancement officiel du comité constitutionnel. Plus que des négociations de paix, les discussions de Genève ressemblent surtout à une victoire diplomatique du régime de Damas. Tant qu'on parle de constitution, on ne parle pas de la guerre ni des disparus, estime un opposant syrien.
Au Liban, les principaux accès de la capitale Beyrouth ont été débloqués, mais au lendemain de la démission du Premier ministre Saad Hariri, rien n'est réglé. Sa démission doit d'ailleurs encore être acceptée par le président de la République. Situation qui reste tendue également en Irak. Le sort du Premier ministre Adel Abdelmadi est actuellement entre les mains du Parlement. Les contestations sociales au Moyen-Orient qui font sortir de sa réserve l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien qui exerce une influence au-delà de ses frontières, appelle les protestataires du Liban et de l'Irak à agir dans le cadre de la loi. Dans le sud-est du Niger, des hommes armés s'en sont pris à une base militaire au nord de la localité de Diffa, zone où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Selon un fonctionnaire sur place, il y a eu des morts et du matériel militaire de brûlé. Les attaques du groupe islamiste nigérian ont repris depuis le mois de mars dernier. C'est une annonce qui semble plaire aux investisseurs. Les titres de PSA ont bondi de 6% à la Bourse de Paris et ceux de Fiat Chrysler de 9% à Milan. Ce matin, les constructeurs automobiles ont annoncé leur intention de se rapprocher. 400 000 personnes concernées dans le monde se feraient des deux firmes le numéro 4 de l'industrie automobile dans le monde. Olivier Tosseri, vu de Rome, pour Fiat, ce sont les portes de l'Asie qui s'ouvrent grâce à Peugeot.
Pour signer le mariage du siècle dans le secteur de l'automobile, Fiat revient à son premier prétendant qui reste français. Après les négociations qui ont échoué avec Renault, le groupe italo-américain renoue celle qui avait été suspendue mais jamais abandonnée avec PSA. Les deux constructeurs en parlent depuis 2014 et avaient étudié à fond en mars dernier les synergies potentielles. Ils se connaissent très bien et collaborent déjà depuis plusieurs décennies dans la construction d'utilitaires et de grands monospaces. L'opération qui pourrait engendrer la création d'un géant de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière est stratégique aussi bien pour Peugeot que pour Fiat. Le français pourrait pénétrer le marché nord-américain sur lequel il est pour l'instant absent. Présent en Chine, il ouvrirait les portes de l'Asie à l'italien et mettrait à sa disposition ses compétences en matière de voitures électriques. Peugeot pourra également faire ses débuts dans la gamme des voitures de luxe grâce aux marques Alfa Romeo et Maserati qui font partie du groupe Fiat Chrysler. Mais la fusion permettrait surtout de dégager des ressources pour l'innovation indispensable pour demeurer compétitif dans un secteur automobile en pleine mutation et consolidation.
Et prudence toutefois ce soir du vice-ministre de l'économie italien, Antonio Misiani. Il est vital de préserver les sites Fiat Chrysler en Italie, a-t-il déclaré dans un forum d'une agence économique du pays. Le marché de l'automobile en pleine transformation, on vient de l'entendre, et qui nécessite des investissements massifs. Les besoins en compétitivité se transforment. En France, les syndicats de PSA en sont bien conscients, mais ils s'interrogent. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Alphonse Gamberg.
PSA emploie près de 60 000 personnes personnes dans le pays. Les organisations représentantes saluent ce rapprochement avec Fiat Chrysler, mais restent prudentes.
Oui, si du côté des syndicats, on reconnaît que cette alliance est une bonne chose face à une concurrence mondiale qui s'intensifie, la prudence reste de mise, notamment sur la forme que prendrait ce nouvel ensemble. Côté français, on souhaite garder la main. Pour l'instant, plusieurs scénarios sont donc sur la table. Celui qui tiendrait la corde serait Carlos Tabarès, l'actuel PDG de PSA, qui deviendrait directeur général de la nouvelle entité, dont le conseil d'administration serait lui présidé par l'actuel patron de Fiat Chrysler, John Elkann, héritier de la famille Agnelli, Anco Nguyen et délégué CFE-CGC. Pour PSA, il attend donc ce soir des précisions.
On ne sait même pas dans quel montage financier et organisationnel que ça va se passer. Qui aura les clés au niveau des décisions? On voit bien que le groupe PSA et Fiat a des complémentarités à la fois. Donc pour nous, l'indépendance dans les décisions fait partie des choses à surveiller dans ce mode d'assemblage.
L'autre interrogation concerne l'emploi, avec un risque de doublon sur certains modèles entre les deux groupes, notamment sur les voitures citadines. Pour Patrick Michel, secrétaire général de Force ouvrière pour la partie monde de PSA, pas question de supprimer des postes en France.
On ne veut pas une alliance qui supprime des emplois, tant du côté de la production que de la conception. On veut absolument avoir des garanties dans cette alliance pour l'emploi français et avoir aussi le bénéfice de cette alliance. Aujourd'hui, PSA est un groupe rentable, donc on veut produire des véhicules Fiat en France. Et les bureaux d'études français de PSA ont démontré leur savoir-faire, tant du côté des marques Peugeot et Citroën que des marques Opel Vauxhall.
La question des emplois sera un élément clé dans la réussite de cette fusion, car pour être définitivement validée, elle devra aussi avoir l'aval de l'État français qui, rappelons-le, détient 12% du capital de PSA. Bercy se dit ce soir très attentive sur cette question des emplois français.
Merci Hakim Kasmi pour vos explications. C'est un feuilleton qui dure depuis 2016. L'Union européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet d'acquisition des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire par l'Italien Fincantieri. La Commission européenne juge que l'opération est susceptible de réduire la concurrence sur le marché de la construction navale de croisière. La descente aux enfers se poursuit pour le groupe Bayer. Un peu plus d'un an après le rachat de Monsanto, le spécialiste américain des pesticides, le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand doit désormais affronter plus de 42 000 plaintes en justice. Elles ont été déposées aux États-Unis contre l'herbicide glyphosate de sa filiale Monsanto. Marie-Pierre Véraud, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Aux États-Unis, ces derniers mois, les avocats diffusent des publicités pour rechercher des plaignants. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout au groupe allemand Bayer. Les recours en justice ont explosé en très peu de temps.
Et oui, de 5 000 en avril à près de 43 000 aujourd'hui, 8 fois plus. Alors certes, toutes ces plaintes n'aboutiront pas, mais jusqu'à présent, il y a eu 3 procès aux États-Unis et autant de condamnations de Monsanto avec des sanctions financières qui font saliver les cabinets d'avocats. La dernière, en mai, 2 milliards de dollars pour un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Et même si Bayer, qui continue à nier tout lien entre le glyphosate et les cancers, fait systématiquement appel avec de fortes réductions des pénalités à la clé, les sommes restent conséquentes. De 289 millions de dollars dans la première condamnation à 78 en appel, de plus de 2 milliards à 70 pour la dernière. Et les cabinets d'avocats rivalisent donc de spots publicitaires pour recruter des plaignants.
Farm workers, landscapers and homeowners who've been exposed to the weed killer Roundup may be at risk for non-Hodgkin's lymphoma.
Cette publicité par exemple qui rappelle les méfaits du Roundup avant d'inciter à appeler. Pas de frais, vous ne nous payez que si nous gagnons, lit-on encore sur leur site internet. En général, les cabinets d'avocats récupèrent 30% des gains en cas de jugement à l'amiable, la moitié s'il y a procès. Et devant un jury, la présence des plaignants ajoute à l'émotion et alourdit la facture pour le groupe chimique. Alors, devant le risque judiciaire, Bayer n'exclut plus d'en passer par une médiation afin de s'éviter de longs et coûteux procès et autant de fâcheuses publicités. Mais l'image du groupe pharmaceutique pâtit fortement de cette filiale plombée par l'affaire des fichiers Monsanto, les OGM et donc le glyphosate.
Merci Marie-Pierre Véraud pour vos explications. Emmanuel Macron est en route pour Rouen. Visite surprise du chef de l'État qui va examiner les conséquences de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Hier, l'enquête a été confiée à des juges d'instruction. Par ailleurs, En début d'après-midi, le président de la mission d'information à l'Assemblée nationale, le député PS Christophe Bouillon, a proposé la création d'une autorité de sûreté des sites Céveso. Le président de la République qui s'affiche en une de l'hebdomadaire ultra-conservateur Valeurs Actuelles ce mercredi. Un article de 12 pages avec pour thème central les questions d'identité. L'entretien a été réalisé la semaine dernière dans l'avion lors du retour de la réunion d'Emmanuel Macron. Il est interrogé sur l'immigration, le communautarisme ou encore la question du voile. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Le chef de l'État défend la politique mise en œuvre depuis le début du quinquennat sur ces sujets.
Oui, dans un premier temps, il dénonce l'inaction de son prédécesseur François Hollande et de très mauvais chiffres en matière d'immigration. Quand j'arrive en 2017, explique-t-il, on donne de plus en plus de visas et on ne reconduit plus les gens qui arrivent illégalement sur le territoire. Et il rend hommage à l'action de son ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, précisant qu'il a fait un travail très ingrat et qui prend du temps. Emmanuel Macron affirme qu'il a aujourd'hui réarmé le dispositif, que les délais d'instruction des dossiers ont été réduits, qu'ils sont passés de 18 mois à l'époque à 6 mois aujourd'hui, qu'en matière de reconduite à la frontière, c'est en train de s'améliorer et que son objectif est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Combien ? Quel pourcentage ? Lui demande le journaliste de Valeurs Actuelles. 100% répond le chef de l'État. C'est la seule manière, selon lui, de sauver le droit d'asile sur lequel il dit ne rien vouloir lâcher. Parallèlement, il rappelle que la France a toujours été une terre d'immigration. On a toujours eu de 10 à 14% de population d'origine étrangère. Et il ajoute qu'aujourd'hui, on a besoin d'un certain nombre de migrants économiques parce qu'il y a certains emplois que les Français ne veulent plus occuper. On retrouve donc partiellement dans cette interview les principes du en même temps macronien.
À gauche, ce choix de s'exprimer dans Valeurs Actuelles fait bondir, mais le chef de l'État assume.
Oui, cette interview lui vaut un procès en indignation à gauche, mais c'est plus sur la forme que sur le fond que portent les critiques. L'élu communiste parisien Yann Brossa dénonce le choix du support Valeurs Actuelles, spécialisé selon lui dans la haine anti-musulmans. Le sénateur socialiste David Assouline parle d'une banalisation du pire, tandis que le député de la France insoumise Alexis Corbière évoque des clins d'œil appuyés en direction d'un électorat très particulier. À ces accusations, l'Élysée rétorque que le président a le devoir de s'adresser à l'ensemble des Français, ce à quoi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ajoute qu'il faut parler d'immigration pour ne pas laisser le sujet aux extrêmes. On a là vraisemblablement les prémices d'un duel avec Marine Le Pen, que le chef de l'État semble plus que jamais considérer comme sa principale adversaire pour la présidentielle de 2022.
Merci Stéphane Robert. Cette interview, elle sème le trouble, estime aussi SOS Racisme. L'association demande au chef de l'État d'arrêter, je cite, la politique de gribouille qui semble l'avoir saisie depuis septembre sur ces sujets. Cet après-midi, en parallèle à Genève, sa secrétaire d'État, Marlène Schiappa, a réagi à l'adoption hier d'un texte par le Sénat sur l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices des sorties scolaires. Marlène Schiappa promet que la mesure ne sera pas validée par la majorité à l'Assemblée nationale.
Le vote au Sénat est ce qu'il est, c'est un vote au Sénat, il n'y a pas la même majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas la position du gouvernement, elle a été exprimée par Jean-Michel Blanquer. Je ne vois pas l'intérêt d'interdire le voile dans les sorties scolaires. Je pense que ça aurait des effets pervers très négatifs, notamment d'exclusion d'un certain nombre de femmes. Moi, j'ai été élue locale et je le suis toujours avant d'être au gouvernement, et même dans des villes de taille moyenne comme Le Mans, là où je suis élue, les écoles dont j'avais la charge, il est arrivé que dans les réunions, les délégués des parents, les seuls qui soient présents sont des femmes qui ont des voiles, des boubous, etc. Et donc si on les exclut, j'ai peur qu'on exclue une partie des parents d'élèves de l'école de la République. Et donc je ne suis pas favorable à interdire le voile dans les sorties scolaires. Maintenant, je ne suis pas favorable non plus à faire la promotion du voile. Je ne crois pas que le voile soit un vecteur d'émancipation pour les femmes. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je pense qu'il faille l'interdire.
Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Un mois après l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris, c'était la première audition de la commission d'enquête chargée de comprendre les dysfonctionnements qui ont conduit Michael Harpon, un fonctionnaire de la direction du renseignement, à tuer 4 de ses collègues avant d'être abattu. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir.
Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a répondu aux députés. Une audition très longue, Pauline. Les parlementaires ont eu du mal à obtenir des réponses.
Oui, 2 heures d'audition et au moins 10 relances des députés pour inviter le préfet de police à parler, comme celle d'Éric Ciotti qui dirige la commission d'enquête.
Nous ressentons une très grande frustration sur l'absence de réponse, sur en effet l'organisation administrative qui relève de votre compétence. On ne peut pas avoir un degré de réponse inférieur à ce qu'a reçu la presse.
Didier Lallement ne veut pas s'avancer. Il invoque l'instruction judiciaire en cours. Les députés l'interrogent sur un fait qui date de 2015, juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Michaël Harpon aurait déclaré « c'est bien fait » devant des collègues.
Je ne sais pas s'il y a eu un signalement. Je n'en trouve pas la trace administrative. Le procureur national a évoqué le fait que M. Harpon avait eu un blâme. Et vous savez que les blâmes sont effacés au bout de 3 ans, et moi je n'ai pas la trace de ce blâme.
Alors, pas de preuve de signalement donc au sein de la préfecture sur le cas Harpon, mais on apprend qu'il y a d'autres fonctionnaires radicalisés.
Oui, 48 policiers ont été signalés pour radicalisation au sein même de la préfecture de police de Paris, dont 33 depuis l'attaque du 3 octobre.
J'ai encouragé au signalement de manière à ce qu'il y ait une levée de doute. Un signalement, c'est une interrogation. Doit-on ou non laisser le fonctionnaire signalé armé ? Puisque sur l'ensemble des signalements, il y en a 12 qui ont amené à désarmer les agents, dont 7 depuis le 3 octobre.
Le préfet Didier Lallement a également demandé des suspensions pour certains policiers radicalisés, mais on ne sait pas combien ils sont.
Le compte-rendu de Pauline Renoir. La météo demain, jeudi 31 octobre, alternance de nuages et d'éclaircies dans les Hauts-de-France, le Grand Est et sur la côte atlantique. Partout ailleurs, ciel couvert avec de la pluie. En région parisienne, et les températures au réveil, elles iront de 6 à Lille jusqu'à 21 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.